Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le 895 de Duo dans ce programme spécial en ce jeudi 19 décembre 2019. Des mots des sens sensibles laissent place à la mémoire ouvrière locale. Le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, s'associe avec cette antenne depuis maintenant quelques saisons et assure une émission mensuelle autour en effet de la mémoire, l'histoire ouvrière stéphanoise. On retrouve aujourd'hui deux invités, Jean-Michel Stenner et Antoine Vernet. Salut à vous.
Bonjour.
Bonjour Lionel.
Bonjour à tous.
Et bienvenue de retour sur cette antenne pour nous parler aujourd'hui d'un grand rendez-vous attendu début d'année 2019. C'est la dernière en 2020, pardon, parce que c'est la dernière aujourd'hui 2019. Avec vous et nous allons revenir en votre compagnie sur les rencontres d'histoire ouvrière que vous organisez régulièrement, hein, comme alors presque chaque année, je dirais, ou tous les deux ans environ. Ce sont les sixièmes rencontres d'histoire ouvrière que vous organisez les 23 et 24 janvier prochains, 100 ans de communisme en France et dans la Loire, du projet révolutionnaire à l'expérience démocratique, tel est l'intitulé de ces rencontres d'histoire ouvrière. Organisé donc dans le cadre du centenaire du congrès de Tours, et c'est tout ce dont vous allez nous parler. Un appel à contribution avait été lancé il y a peu hein, sur votre site, le site dédié du GREMOS. Le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois avait publié en effet un appel à contribution pour ces sixièmes rencontres. Je vous laisse avec grand plaisir la parole, Antoine et Jean-Michel, pour nous parler de ces sixièmes rencontres de janvier prochain.
Eh bien, merci Lionel. Comme tu l'as dit, maintenant les rencontres sont biennales, mais c'est la première fois, puisque jusqu'au cinquième, c'était toutes les années. À partir de 2020, à partir de janvier, ce sera donc une biennale que nous organisons sur l'histoire ouvrière. Et je vais tout de suite passer la parole à Antoine, qui va nous présenter le projet et l'introduire.
Alors, donc, on a pour cette année mis comme thématique, comme ça a été dit, ce centenaire du congrès de Tours, pour avoir l'idée de s'interroger sur justement ces 100 années qui nous séparent depuis l'invention en quelque sorte du communisme. Donc on organise avec le concours de nombreux partenaires ces rencontres les jeudis 23 et vendredi 24 janvier 2020. Elles auront lieu, ces rencontres d'histoire ouvrière, dans les locaux des archives départementales de la Loire, que nous remercions au passage de nous accueillir. Donc l'entrée sera libre. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le lieu, c'est l'arrêt de tram Chalet-Assière, c'est rue Barouin. Entrée libre, dans la limite des places, évidemment, mais vous êtes tous et toutes les bienvenus à ces rencontres. Donc la thématique qu'on a retenue, on s'était dit, donc après les quatrièmes rencontres qu'on avait consacrées au monde ouvrier face à la Grande Guerre, qui est d'ailleurs le titre que nous avons donné à la publication des actes de ces rencontres, on a voulu revenir encore sur une vieille histoire, en quelque sorte, et donc sur la question du communisme français. Et on a tenté, avec l'appel, avec les contributions que nous avons reçues, de construire un programme qui nous permette d'interroger justement la longévité de ce parti, qui à l'époque remonte aux événements de la fin de guerre, 1917 en particulier, et des premières années de l'après-guerre, avait été fondé dans l'idée d'une révolution mondiale qui devait être immédiate. Le grand soir qui était véritablement attendu, mais on connaît l'histoire côté française, malgré des grèves ambitieuses 1919-1920, cette révolution n'est jamais advenue, et le Parti communiste a quand même continué son action. Il n'a jamais exercé seul le pouvoir au niveau national, il a pu l'exercer seul ou en association au niveau local plus souvent. Et donc le PCF est parvenu à inscrire son action dans ces territoires français, la fameuse banlieue rouge, mais également un communisme en province, plus souvent urbain, mais parfois on a eu des formes de communisme rural aussi. Et donc les valeurs, les principes du communisme ont réussi à s'associer, à s'inscrire dans le modèle républicain, non sans heurts, non sans contestation parfois. Et donc, pour ce qui intéresse la Loire, pour ce qui intéresse le bassin industriel de Saint-Étienne, également celui de Roanne qu'on doit mettre en avant, c'est que malgré des bastions ouvriers, malgré une population ouvrière importante, le Parti communiste n'a jamais réussi à l'échelle des bassins à se placer dans une situation dominante véritablement. Ça a toujours été un acteur important, mais jamais
hégémonique.
Voilà. Et donc, il a dû, pour accéder au pouvoir, utiliser des stratégies électorales ou purement militantes. Et en plus, le Parti communiste a été, comme dans l'ensemble, non seulement de la France, mais aussi de l'Europe et même du monde, était confronté à un anticommunisme politique, patronal, clérical parfois, etc., etc., qui justement a réussi à fédérer contre les communistes une coalition d'acteurs variés et dont la configuration a pu varier suivant les périodes. Et donc, en repartant du congrès de Tours, alors pas simplement le congrès en lui-même, mais vraiment la séquence dans laquelle il s'inscrit, on souhaite se réinterroger ce siècle, ce 20e siècle du communisme, d'une certaine manière, qui déborde sur le 21e, afin de réfléchir, nous, Grémos, en tant que porteur et interrogateur de l'histoire et de la mémoire ouvrière, de comprendre le cas de la Loire, d'aller solliciter, parce que malheureusement, il y a toujours des lacunes dans le récit historique sur notre région, d'aller comparer avec ce qui a pu se faire dans d'autres territoires français. Et l'idée, donc, ça va être, dans ces deux journées, d'étudier également l'action municipale que les élus du Parti communiste ont pu avoir et les différentes formes d'implantation, donc avec le programme que nous vous avons concocté.
Alors, merci Antoine. On va donc d'abord préciser que ces rencontres, elles sont organisées en quatre temps. Le premier temps sur le congrès de Tours lui-même. Et autour du congrès de Tours, eh bien, nous avons prévu quatre interventions que je vais essayer d'évoquer un peu rapidement. Enfin, j'en évoquerai une et toi, tu interviendras sur les suivantes. Mais ce que l'on voudrait montrer dans un premier temps, c'est que le congrès de Tours, qui a souvent été limité à être présenté comme l'acte de naissance du Parti communiste français, c'est en fait un événement beaucoup plus compliqué. D'abord, rappeler que le congrès de Tours concerne autant l'histoire du socialisme que celle du communisme, et aussi que la scission n'était pas aussi inéluctable que ça a été écrit plus tard. Je pense en particulier au livre de Jean Fréville, qui paru dans les années 60, qui s'intitulait « La nuit finit à Tours ». Donc le titre en lui-même était tout un programme. Alors, pour introduire cette première demi-journée, on a demandé à Gilles Candard, historien français de gauche, professeur, docteur en histoire. Il a été professeur en lycée et c'est un grand spécialiste de l'histoire des gauches en France, puisqu'il a participé, il a dirigé une célèbre histoire des gauches en France, parue au début du XXIe siècle. Il a aussi travaillé sur plusieurs grands acteurs de cette histoire, notamment Jean Jaurès, Édouard Vaillant et Marcel Cachin, enfin Édouard Vaillant dans la mesure où il était un des socialistes majoritaires de la guerre. Mais il a surtout travaillé sur Jean Longuet, et c'est pour ça qu'on le fait venir, parce que son livre est l'occasion de réfléchir à effectivement ce qu'ont été les différents courants qui ont traversé l'histoire du congrès de Tours. Alors, il essaye ce qu'il appelle le projet reconstructeur, qui va être le cœur de son intervention. Il essaye de montrer que le congrès de Tours n'est pas quelque chose d'aussi simpliste que on l'a longtemps présenté, qu'il y a une diversité des positions, que, en fait, entre le socialisme de guerre, le socialisme majoritaire, représenté par Édouard Vaillant, représenté aussi par Albert Thomas, et puis le courant zimmerwaldien, c'est-à-dire de pacifiste, d'opposition à la guerre, qui émerge déjà à la fin de 1914, mais qui va se développer en 1915-1916, comme on l'a vu dans les rencontres de 2017. Bien, entre les deux, il y a un courant qui s'appelle le courant reconstructeur, qui est bien représenté par Jean Longuet, qui a essayé de faire en sorte de préserver l'unité du parti tout en revenant avec une vision un peu critique sur l'histoire du socialisme de guerre. Sauf que, évidemment, les événements ont accéléré la dissolution et la division à l'intérieur du parti, et que Jean Longuet va se retrouver d'ailleurs l'objet d'un ostracisme venu signifié par Moscou lui-même. C'est intéressant parce que ça montre le poids qu'a pu jouer l'international communiste à partir de 1919, et notamment Léon Trotsky, qui connaissait bien la France, et Lénine, dans l'évolution et dans ce qui va être la rupture. Donc on compte sur Jean Longuet pour nous présenter un peu cette...
Le personnage de Jean Longuet présenté par Gilles Candard.
Voilà, on a... Oui.
Après cette première présentation que nous fera Gilles Candard, donc, qui va permettre d'avoir une vision un peu nationale sur la question du congrès de Tours, on va vouloir s'intéresser ensuite un peu au local. Et on va aller vers ce qui se passe au niveau des fédérations de province. Et le programme qu'on vous propose va vous permettre de mettre en avant justement trois fédérations. Donc la première, qui sera une contribution préparée par... François Prigent, aura pour cadre la Bretagne, et donc les naissances du communisme local en Bretagne.
Il y a ce pluriel parce que justement, il y a au moins 4 fédérations, et je pense même 5, puisqu'il inclut la Loire-Atlantique.
Le vieux débat ouais. breton. Donc, François Prigent, qui est professeur en lycée à Rennes, va exploite les sources de ces différentes fédérations de Bretagne, et s'interroge justement sur, à travers un renouvellement du regard sur l'histoire des gauches en Bretagne. Il va chercher à relire justement comment toutes les problématiques du congrès de Tours, à l'échelle locale, à l'échelle régionale aussi, effectivement, en Bretonne, va expliquer aussi comment ces décisions du congrès de Tours, elle va... s'appuyer sur une redéfinition des structures militantes au niveau des fédérations socialistes puis communistes de la région. Et il propose notamment de s'interroger sur les différents délégués bretons présents au moment du congrès de Tours.
Il y a une étude, ce qu'on appelle une sociographie aujourd'hui, une prosopographie qui va être faite. Et alors, de la Bretagne, on va traverser la France pour aller vers l'Alsace.
Oui, il ne faut pas avoir peur des trajets un petit peu longs. Donc la troisième intervention ça sera le jeudi matin pour voilà, il y a une session par matinée ou après-midi. Donc on sera avec un doctorant en histoire à l'université de Strasbourg qui s'appelle Pierre Krieger et qui est à Sciences Po Strasbourg et qui va nous présenter une communication sur un syndicaliste et politique qui s'appelle Charles Huber. Et donc la communication est intitulée « Du tribun du peuple à la mairie de Strasbourg », donc avec une perspective un petit peu plus longue que le seul congrès de Tours. Et donc s'interroger un personnage qui, en plus, s'inscrit dans une histoire très particulière, qui est celle du socialisme en Alsace, qui est quelque chose d'assez méconnu finalement en dehors de cette région, et qui, je pense, va être vraiment assez une vraie ouverture pour beaucoup de gens.
J'espère. Et qui prend racine dans l'histoire allemande, c'est
oui,
ça qui est
oui,
intéressant.
Oui, oui. Oui, pensée révolutionnaire en Alsace comme dans l'Empire allemand à la conclusion de la guerre. Et donc on a ce Charles Huber qui est un social-démocrate au moment de l'Empire et qui va gravir les échelons du Parti social-démocrate allemand et qui va, lorsque les péripéties vont faire que l'Alsace-Moselle va réintégrer la République française, qui ne se fait pas immédiatement au moment de l'armistice, il va donc intégrer la SFIO. Et donc, en étant parmi les partisans de la Troisième Internationale lors du congrès de Tours, il va devenir un des principaux dirigeants de la section française de l'Internationale communiste, désormais.
Je me permets de rappeler que ce qu'on a appelé la Révolution de novembre en Allemagne, c'est-à-dire ce qui se passe à partir du 9 novembre 1918, a commencé presque à Strasbourg.
Oui,
donc
oui,
ce mouvement alimente la création, enfin, le côté un peu révolutionnaire de la fédération du Bas-Rhin, d'Alsace pour le départ de la SFIO qui va effectivement adhérer.
C'est vrai qu'il ne faut pas avoir une vision politique de l'Alsace comme elle peut être aujourd'hui. Il y a vraiment un retournement important qui a été fait depuis cette époque. Et donc voilà, on a quelqu'un, on a Huber qui va parcourir toute l'Alsace-Lorraine, qui va même aller en Allemagne, en Suisse alémanique, à Belfort, bon, ancien arrondissement alsacien avant la guerre 70, qui va s'adresser en allemand, en alsacien à la population, et donc même après le rattachement de l'Alsace à la France, et chercher à convaincre une population qui doit déjà faire face à la problématique de la réintégration dans le cadre français, donc convaincre les ouvriers alsaciens de l'intérêt d'adhérer à l'Internationale communiste. Et donc on a un personnage qui va devenir député en 24, qui va intégrer le comité central du PCF en 25, et donc il y a une place assez intéressante dans le mouvement communiste français, et qui défend aussi des revendications typiquement alsaciennes, mosellanes, qui l'entraîneront ensuite dans un parcours politique un peu différent. Et on a une quatrième intervention pour le matin, de la part de Jean-Michel Stenner, ici présent, donc ancien président du Grémos, docteur en histoire, qui a fait sa thèse sur le communisme à Saint-Étienne après la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 58, et qui là, tu vas nous proposer une vision du congrès de Tours vue de la Loire, vue du Forêt, et donc avec les débuts que tu qualifies de chaotiques de la Fédération communiste de la Loire, avec une vision qui va nous emmener jusqu'en 1923. Je continue
oui.
la présentation que tu fais de ton sujet. Donc, en 1917, on le rappelle, on a des grèves très importantes qui commencent à éclater dans le bassin stéphanois contre la guerre, donc avec l'écho des révolutions en Russie. On a ensuite, après la guerre, une adhésion unanime de la Fédération de la Loire, de la SFIO, aux thèses défendues par la Troisième Internationale. Donc,
unanime, je serais amené à le nuancer. Ah. Mais c'est quand même unanime en termes de mandat. Mais il y a des sections qui renâclent.
Donc le résultat, c'est qu'effectivement, toute la fédération adhère. La SFIO est complètement décapitée dans un premier temps. Et finalement, avec l'évolution, à travers les élections de 1919, à travers les grèves de 1920 et leur répression, à travers également la scission syndicale de plus en plus inéluctable qui finira par complètement aboutir en 1921-1922, on a différentes péripéties qui, là aussi, vont compliquer un petit peu cet unanimisme de façade de l'adhésion au communisme dans la Loire. Et donc, en plus, on a un département ouvrier ou un peu ouvriériste.
Et une longue tradition socialiste aussi.
Longue tradition socialiste.
Ça s'inscrit quand même dans une histoire.
Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment cette tradition aboutit à cette adhésion. Et comme tu le fais remarquer, déjà, finalement, il y a des avis assez divergents, et ces divergences vont finir par des missions, par des exclusions plus tard.
Et même par la création d'un troisième parti.
Oui, voilà. Mais là, ça sera l'occasion d'une autre communication.
Alors l'après-midi de ce jeudi, nous allons poursuivre, puisque maintenant nous saurons que la scission est effective et que cette scission est accompagnée, comme tu viens de le signaler Antoine, d'une scission syndicale. Nous allons poursuivre avec la question qui va parcourir l'après-midi sur l'implantation ouvrière du communisme. Et là, on ne s'est pas embarrassé dans les détails. Je veux dire, on va faire de la conquête jusqu'au déclin, hein, des années 20 aux années 80. Alors, en fait, deux parties dans cet après-midi. La première partie sera consacrée aux années 20 avec deux interventions. Une de Clément Fontanaz, encore un doctorant à l'Université de Strasbourg, qui, lui, s'intéresse sur l'implantation du communisme dans les régions alpines, Haute-Savoie, Savoie, Grenoble, entre 1920 et 1939.
Je me permets, c'est intéressant cette entrée par les Alpes, parce que ce n'est pas la région qui vient le plus à l'esprit quand on pense à l'histoire du communisme français.
Voilà. Et d'une certaine façon, Fontanaz va peut-être pouvoir rassembler tous les ingrédients que tu as cités dans ton introduction, c'est-à-dire à la fois la tension entre monde rural et monde ouvrier, parce qu'il y a quand même quelques bastions industriels, notamment la région d'Annemasse, la vallée de la Maurienne, la région grenobloise. Donc comment le communisme va s'implanter, notamment par le biais du syndicat CGTU, dans ces bastions, dans ces régions industrielles. Et puis, il y a bien sûr beaucoup de ruraux dans cet espace alpin, en particulier dans les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, et même la Savoie, des ruraux qui sont encore fortement marqués par la tradition chrétienne, tradition catholique. On pourrait très bien faire un parallèle entre, par exemple, le culte marial très, très important en Haute-Savoie et celui qui existe dans la Haute-Loire chez nous. Fontanaz voudrait aussi s'intéresser à ce qu'a été l'impact de l'immigration italienne dans cette implantation éventuelle du communisme. Je pense que dans les années 20, ça peut effectivement être intéressant. Après, je crois que la proximité de la frontière va plutôt donner un certain avantage aux partisans du fascisme dans cette immigration italienne de la région alpine.
Alors ça permettra pour les gens qui voudraient s'intéresser un peu à la question de cette présence italienne et de ce qu'elle peut impliquer, ça évoque un peu les travaux sur l'Onguy de Gérard Noiriel, justement, où c'est cette immigration italienne dans l'entre-deux-guerres. Noiriel s'interrogeait sur les militants communistes d'un côté, les militants fascistes de l'autre.
Exactement.
Donc ça pour les gens qui voudraient s'intéresser à cette question, on peut leur conseiller cette lecture d'un ouvrage qui est reparu en plus cette année.
Et au milieu, l'Église.
Oui, oui, bien sûr.
Bon, après Fontanaz, nous allons revenir sur la région de la Loire avec Jean Lorsin, notre ami Jean Lorsin, professeur émérite à l'Université de Lyon, qui a beaucoup travaillé sur la région stéphanoise, qui a fait sa thèse sur la région stéphanoise entre la grande crise de 1883 et celle de 1929, qui a fait beaucoup, beaucoup de notices du Métron et qui va s'intéresser à une des grandes figures du syndicalisme et du communisme dans la Loire, à savoir Marcel Thibault. Donc son intervention est intitulée « Un métallo, du syndicat au parti, un parcours tumultueux ». Alors, Marcel Thibault, tu le connais bien, Antoine.
Pas personnellement.
Si, mais bah non, oui. Tu le connais bien parce qu'il a été un acteur majeur d'un événement fondamental dans le développement du communisme dans la région, c'est la grève de 1924.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on est avec un des personnages emblématiques d'une génération de militants passés d'abord par le syndicat et qui ensuite passeront par le parti, qui, justement, 1924, c'est la grève générale de la métallurgie à Saint-Étienne entre février et avril. Et donc, c'est une grève d'inspiration communiste en partie, ou en tout cas qui va être récupérée par les militants communistes également engagés au niveau syndical. Et donc, Marcel Thibault, ce parcours va être intéressant. On a un fils de métallo qui va devenir lui-même métallo, qui est originaire de Londaine. Il va d'abord être, par exemple, au Cercle d'études sociales à Unieux.
Il était anarchiste.
Oui, mais
ce
comme
qui nous montre encore une fois ses parcours un peu.
Voilà, les militants de Londen des années d'avant-guerre, effectivement, avaient une inspiration anarchiste très forte. On peut évoquer d'autres noms qui sont aussi dans cette grève de 24, Petrus Faure, Benoît Frachon. Voilà, c'est toute une génération qui va avoir un engagement anarchiste, socialiste, et qui, à travers l'expérience de la Première Guerre mondiale, finalement. Va adhérer à la révolution bolchevique. Et donc, Thibault va être secrétaire des Jeunesses socialistes.
Oui. Au départ, Jeunesses socialistes, oui, qui vont être un des fers de lance de la scission.
Et donc, il va ensuite travailler à l'usine, chez Jacob Holzer à Unieux, à Saint-Étienne. Voilà, encore quelqu'un qui aussi change souvent d'entreprise, comme c'est souvent le cas à l'époque, d'autant plus quand vous êtes militant. Plus facile de se faire virer à l'époque.
Liste noire, ça existe.
Et donc, il va être un des meneurs du syndicat CGT des métaux, dont il va contribuer à la scission. On peut renvoyer aussi en partie à l'ouvrage de Daniel Colson sur anarcho-syndicalisme et communisme sur la question. Et donc, il va mener la mise en œuvre du syndicat CGT unitaire et s'engager pour la lutte contre le chômage dans l'entre-deux-guerres. Il va gravir les échelons syndicaux et puis également s'engager de plus en plus au sein de la section stéphanoise du Parti communiste. À partir de 1923, il va intégrer le comité directeur de la Fédération communiste. Et donc, voilà, c'est un personnage très engagé qui va être condamné par la justice plusieurs fois, qui va être une des bêtes noires de ce qu'on appelle à l'époque la police spéciale, les futurs renseignements généraux. Et donc voilà, c'est le cas que Jean Lorsin va nous présenter, de très intéressant, d'un de ces militants ligériens communistes de l'entre-deux-guerres.
Bête noire, tu le dis, de la police et des patrons, et en même temps une idole de toute une jeunesse ouvrière qui applaudit notamment dans les manifestations de la fin des années 20 et des années 30 à la radicalité de Thibault. Alors Thibault émerge à la faveur de la grève de 1924. Eh bien, ça va être l'occasion d'écouter un texte plus tardif, d'une quarantaine d'années, de Léo Ferré, qui s'intitule précisément « La grève », mais pas tout à fait dans la même tonalité que ce que pouvait en dire Thibault.
Tu paieras ta télévision avec tes gauloises manquées. Tu paieras ton lapin visou à la sociale sécurité. T'enverras des fleurs à ta mère avec le reste de tes soucis. Tu mettras de l'eau dans ton verre, le vin ça fout la maladie. Mais faut jamais, même en rêve, faut jamais faire la grève. Tu passeras à la fin du mois prier Notre-Dame des petits fours. Si par hasard tu n'as plus de croix, on te refilera une croix de secours. Ça monte tout droit comme la fumée des hauts fourneaux. à moins qu'il y ait le vent qui passe par là. Alors t'as prié pour la peau. Mais faut jamais, même en rêve, faut jamais faire la grève. T'auras du foin chez ton tabac, t'auras de l'avoine pour tes deux chevaux, en disant comme les Auvergnats, ces chèles que j'aime pour mon bestiau. Tu prendras ta femme dans tes bras, du moins ce qu'en ont laissé les gosses que tu lui fais tous les 10 mois. Faut bien 30 jours pour faire la noce. Mais faut jamais, même en rêve, faut jamais faire la grève. Quand t'auras le temps, t'iras voter en montrant tes papiers de souverain pour envoyer ton député faire les conneries que tu ferais bien. Si par hasard on te fait savoir que le pain, le boulot, la liberté se sont fait faire sur le trottoir comme une gonzesse, t'auras gagné. Alors des fois, même en rêve, tu pourrais peut-être faire la grève.
Bien, après Léo Ferré, nous allons partir à la deuxième partie de cette deuxième demi-journée qui va nous amener carrément aux années 50 puis 80. Antoine ?
Avec des questionnements différents, forcément, une réalité sociale en France qui évolue. Et donc la troisième intervention de l'après-midi sera celle de Fabien Benézec, qui est aussi un enseignant en histoire-géographie, qui prépare une thèse sur les communistes marseillais et la question algérienne de 45 à 62. Et donc, à travers sa communication, on va s'intéresser donc à cette ville de Marseille où est implantée une des plus importantes fédérations communistes, même si on connaît un petit peu la politique marseillaise qui a notamment incarné par Gaston Defer.
Mais c'était pas un communiste, lui.
Oui, mais justement, qui consistait à ne pas laisser le pouvoir aux communistes. Oui, d'abord les gaullistes, ensuite donc les socialistes avec Defer. Donc voilà, un anticommunisme assez fort à Marseille. Et par contre, du côté des communistes, il y a une chose qui était importante pour eux dans la situation locale, c'est qu'on a une ville, un port qui finalement est le port d'entrée, le point de passage obligé de tous ceux qui vont et qui viennent d'Algérie. Donc c'est un foyer d'implantation des mouvements nationalistes assez précoces et un des plus importants en France, avec une population algérienne très, très importante. Et on a même un phénomène de concentration, de venues, pas simplement de travailleurs, mais de familles entières. Et donc c'est ce qui est intéressant pour et ce qui est un problème aussi pour le Parti communiste, c'est avec une population ouvrière nouvelle, avec des intérêts et des considérations différentes en partie de celles de la population métropolitaine, comment le Parti communiste à Marseille va tenter de faire évoluer ses pratiques et son mode d'action militant en ayant pas simplement dans des revendications de la classe ouvrière, mais également en essayant de considérer au mieux les problématiques inhérentes à cette population immigrée et avec également la question de la revendication indépendantiste qui se pose dans cette période. Et ça reste quelque chose de problématique. C'est pas, même si le Parti communiste s'est engagé en faveur du mouvement indépendantiste avec des échelles variées, moi, ce n'est pas une histoire que je connais bien, mais il me semble que c'est...
Oui, disons que ça dépend quand il est au pouvoir ou quand il ne l'est pas. Quand il est au pouvoir, donc en 1945, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Parti communiste a eu une certaine ambiguïté face aux événements de Sétif. Bon, après, ça se modifie. Mais la question, c'est est-ce que l'Algérie, c'est la France ou est-ce que l'Algérie, c'est un pays indépendant ? Donc, tant que la question est... l'Algérie, c'est la France, donc les Algériens sont des travailleurs... J'allais dire presque comme les autres. Et donc, on n'a pas à intégrer cette question de l'indépendance. Là, ce qui prime, c'est la lutte pour l'émancipation sociale.
Et là, on s'inscrit aussi avec cette problématique algérienne, surtout à partir de novembre 1954, dans le contexte plus large du discours anti-impérialiste, anti-colonialiste de l'Union soviétique et des communistes français. Et donc, c'est cette idée, justement, que...
Le parti va se retrouver face à des... Il va devoir prendre des choix. Et on va voir comment Fabien Benézek va nous présenter ses choix opérés par le parti communiste à Marseille.
Il nous l'a décrit lui-même, comment ces communistes marseillais vont devoir sortir de leur propre ambivalence, ambiguïté sur la question, et donc devoir finalement accorder la pensée et les actes en matière justement de discours vis-à-vis des immigrés algériens en France et vis-à-vis de la question de l'indépendance.
Et alors, l'après-midi va se terminer par une intervention de Samir Haj Belkacem, donc il vient d'arriver comme maître de conférence de sociologie à l'université Jean Monnet, et qui, lui, va nous présenter la relation entre Parti communiste et population immigrée, notamment d'origine algérienne, dans la région parisienne, mais... à la fin des années 1980, c'est-à-dire à une période où le Parti communiste est en train de décliner très sérieusement.
Et sur la question de l'immigration, on est une génération au moins plus tard. Donc c'est un travail qui s'inspire de sa propre thèse de doctorat qu'il a soutenue en 2015 à l'EHESS, qui s'appelle « Représenter les quartiers populaires », il met bien « quartiers populaires » entre guillemets, point d'interrogation, socio-histoire de l'engagement électoral et partisan dans les cités d'une municipalité communiste. Et donc, l'intérêt de cette présentation, ça va être de montrer comment, dans une ville ou une tradition politique, communiste, municipale, est assez ancienne, avec donc les cadres, les organisations du parti, périphériques du parti qui sont présents, comment cette population des cités va s'engager politiquement, va se retrouver confrontée à une réalité, c'est que pour, en grande partie, donc des enfants de l'immigration et en partie de l'immigration maghrébine, l'accès aux responsabilités municipales va se retrouver très difficile, en fait. C'est un engagement militant avec une mobilité...
Un ascenseur
grippé, ouais. Voilà, pour arriver aux responsabilités dans une municipalité communiste. Et du coup, ces personnes qui ont envie de s'engager vont être obligées de trouver une forme alternative pour mener leur carrière militante. Et cette reconfiguration, cette recomposition, elle va passer notamment sur la question de l'encadrement de la jeunesse, sur l'action culturelle dans ces quartiers populaires et la promotion aussi d'une forme de participation des populations d'origine étrangère. Et c'est finalement, dans sa thèse, ce que Samir nous montrait, c'était la fonction d'éducateur, voilà, qui donnait vraiment une visibilité sociale et qui permettait d'être une fonction qui...
Un relais aussi.
Oui, aussi. Ça peut... peut-être amener à penser à d'autres problématiques qui ont été présentées de manière beaucoup plus négative dans le débat politique des dernières années. Mais voilà, cette figure des éducateurs, des relais entre la jeunesse, les populations des cités et les élites municipales d'une municipalité communiste, voilà, c'est un rôle là aussi qui est assez ambivalent. Et comment on s'intéressera, comment justement... Ouais. cet engagement militant, partisan va s'incarner et toutes les difficultés que ça pose aussi sur l'état du communisme municipal.
C'est ça.
Dans la banlieue rouge.
Dans le contexte des années 80. Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure, à l'instant, pardon, des années 1980 et de la politique municipale, eh bien, la troisième demi-journée,
qui sera le vendredi matin,
sera consacrée à la conquête et l'exercice du pouvoir municipal. Alors là, on innove un petit peu dans le schéma, puisque la journée du vendredi va être marquée par deux interventions et une table ronde pour chaque demi-journée. Alors le matin, eh bien, on donnera d'abord la parole à Daniel Durand, que certains de nos auditeurs connaissent bien. Daniel Durand est...
Donc, président du CEDMO de 42, donc, qui est le centre d'études et de documentation
du mouvement ouvrier,
qui jusqu'à cette année a recueilli des archives issues du Parti communiste et des différentes sections de la Loire, archives qui vont d'ailleurs être versées aux archives départementales à la fin de l'année.
Voilà. Et Daniel Durand est aussi donc historien, et il est chercheur en relations internationales et il va nous proposer une intervention sur une espèce de comparaison entre la municipalité de 1935 à Saint-Étienne et celle de 1977. Alors, en gros, l'idée, c'est, voilà, on a un parti communiste qui est important, mais il n'arrive au pouvoir à Saint-Étienne, à la direction de la municipalité, qu'en 1977, c'est-à-dire 57 ans après sa création.
Oui, mais c'est une municipalité d'union de la gauche. On l'oublie de temps en temps.
C'est une municipalité d'union de la gauche, mais qui est dirigée par un maire communiste, par un premier adjoint communiste, et dans laquelle on a voulu voir que l'importance du Parti communiste.
Oui, la composition du conseil municipal montrait aussi un peu que le Parti socialiste ne pensait pas gagner l'élection.
Bien sûr. Là, alors, cette élection de 77, quand elle a eu lieu... au lendemain de l'élection, Joseph Sangdols et plusieurs de ses adjoints ont fait allusion à l'élection de 1935. Alors l'élection de 1935, ce n'est pas une municipalité communiste, mais c'est une municipalité de Front populaire.
Un peu avant l'heure,
puisque c'est effectivement un an avant les élections législatives qui ont donné la victoire au Front populaire. Mais en 1935, il y a plusieurs municipalités, dont Saint-Étienne et Villeurbanne, on y revient dans un instant, qui ont été dirigées par des conseillers municipaux avec des communistes, ce qui était un événement, puisque jusque-là, le Parti communiste était quand même relativement rejeté dans une opposition.
Et avait comme instruction aussi de Moscou de ne pas participer avec les autres partis de gauche.
Pas accepter l'alliance avec... les réformistes, les sociotraites, enfin toutes les expressions qu'on a pu entendre à l'époque. Donc ce que va proposer Daniel Durand, c'est cette comparaison entre ces deux municipalités et les enseignements que l'on peut tirer sur l'implantation communiste dans l'électorat ouvrier stéphanois d'un cas à l'autre.
Et donc on va passer à Villeurbanne, l'autre intervention de ce vendredi matin.
Donc l'autre intervention, c'est encore un doctorant, un jeune... doctorant de l'université de Lyon 2, qui s'appelle Ludovic Rioux, qui fait en fait doctorant, je passe un petit peu vite peut-être, il termine actuellement son master d'histoire politique, mais il va sans doute déboucher sur une thèse. Et alors le titre qu'il nous a proposé est aussi intéressant dans toute l'évolution de ce que vous avez pu entendre depuis le début de cette émission. Son titre, c'est « Désouvriérisation et recentrage électoral du Parti communiste à Villeurbanne de 1973 à 1993 ». Parce qu'en effet, le Parti communiste est très puissant à Villeurbanne, mais lui, il va remporter l'élection de 1935 seul, et même s'il y aura des socialistes, mais c'est un maire communiste qui dirige la ville. Par contre, après la guerre, le parti se retrouve marginalisé par une alliance, on a évoqué tout à l'heure celle de Marseille, une alliance électorale anticommuniste. Alors ça reste une très forte opposition à la municipalité, mais néanmoins une opposition. Alors le tournant se profile dans les années 70 avec l'espoir de un peu de faire comme à Saint-Étienne, une dynamique de l'union de la gauche. Mais là, le Parti communiste va se retrouver face à un poids lourd qui est Charles Hernu, qui va réussir à remporter l'élection municipale. Et alors qu'on est dans une période de l'union de la gauche, eh bien, le Parti communiste à Villeurbanne se retrouve, lui, toujours dans l'opposition. Alors, Ludovic Rioux s'interroge sur la relation entre cette opposition un peu chaotique, un peu confuse, et puis l'énorme potentiel communiste qui existait à Villeurbanne, qui va fondre petit à petit dans les années 70-80 avec la désindustrialisation. Alors, avant de parler des tables rondes, on va les réserver pour la fin, Antoine.
Oui.
T'es d'accord ? On va parler de la fin de la deuxième demi-journée du vendredi, c'est-à-dire la quatrième partie de ces rencontres, qui sera consacrée au rôle des intellectuels et des acteurs culturels. Là, on a deux intervenants qui sont tous les deux des Stéphanois.
Oui, donc on va recentrer encore un peu plus sur l'histoire de la Loire, donc autour de ces acteurs culturels et intellectuels. Donc la première intervention à la fin de l'après-midi sera celle de Jean-Paul Gachignard, ancien conservateur en chef des bibliothèques, qui va nous parler d'un personnage intéressant, mais un peu méconnu malgré ses œuvres. C'est Claude Liaugier.
Qui publie sous le nom d'André Philippe.
Voilà, qui est connu sous son pseudonyme André Philippe. Et donc c'est un ouvrier qui va être un militant du Parti communiste dès sa jeunesse, dès l'entre-deux-guerres, et qui, dans les années 50, va être un des journalistes du...
40 même, 45.
Oui, du journal d'abord du Front National, puis de la Résistance, puis communiste, le Patriote. Et c'est également quelqu'un qui, au début des années 30, a été un des artisans d'un mouvement qu'on appelle le mouvement des rapcorps, qui sont les correspondants ouvriers de l'humanité à travers la France. Et André Philippe a également publié deux romans qu'on arrive à trouver encore dans des bouquineries. L'Acier, publié en 1937, et également Michel Rondet, une biographie parue en 1949. Et il a également écrit une brochure qui s'appelle Les Constructeurs, qui est parue après la Libération. Et donc la proposition de Jean-Paul Gachignard nous permet de retracer l'itinéraire d'André Philippe et en analysant un petit peu ses romans, de comprendre comment son œuvre s'inscrit dans une littérature prolétarienne.
C'est ça.
Avec aussi la figure de Michel Rondet qui est revisitée à travers ce prisme. Et donc s'interroger sur les débats chez les communistes entre la Révolution et la Réforme. Et donc c'est intéressant d'avoir une entrée sur ces débats à travers ce personnage d'André Philippe. Et on a une dernière contribution l'après-midi par Serge Proust, qui est un ancien maître de conférences en sociologie à l'Université Jean Monnet, qui va nous parler de décentralisation théâtrale et qui va nous permettre, donc, à partir de 1945, d'aborder le projet politique, démocratique, à travers la diffusion de la culture et d'une forme de culture un peu élitiste, un peu traditionnelle, légitime, vers des publics qui, ordinairement, n'en sont pas les destinataires. Et donc, c'est intéressant de s'interroger sur la diffusion du théâtre dans une ville communiste. Et donc, Serge va nous proposer de s'intéresser au lien ou à l'absence de lien entre Jean d'Asté, donc une grande figure du théâtre dramatique français et évidemment connu des Stéphanois pour son action à la tête de la Comédie, et donc les liens entre Jean d'Asté et le Parti communiste français jusqu'au début des années 70, en s'interrogeant justement sur la critique qui peut être faite de ce genre d'initiative et sur la manière dont le Parti communiste et ses organisations satellites vont tenter de s'impliquer dans la vie culturelle dans les territoires ouvriers. Donc c'est des relations à interroger. Pour l'instant, c'est plus une interrogation problématique et ça sera l'occasion de voir un peu ce qu'il en est de manière concrète à travers cette dernière intervention.
Alors, puisqu'on termine les interventions proprement dites sur la culture, on va procéder peut-être à rebours et donc d'abord parler de la table ronde sur la culture qui aura lieu, elle, en début d'après-midi.
Alors, les tables rondes, on veut aussi rassurer peut-être un peu les auditeurs qui ont l'impression qu'on les invite à un colloque universitaire des plus traditionnels, des plus austères. Non, on a quand même... Le but, c'est d'avoir quelque chose qui s'adresse au plus grand nombre. Et l'idée des tables rondes aussi, c'est d'avoir un peu de concret, pas simplement la parole du scientifique. Voilà, c'est d'avoir des témoins qui nous permettront aussi de remettre un peu en question ce que le chercheur avance, et d'avoir quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus vivant. Et donc cette première table ronde du matin sur la question de la conquête du pouvoir et des politiques municipales, on a invité différents anciens acteurs des politiques municipales dans la Loire dans les années 70-80. Tu peux en présenter...
90, oui. Alors, on va peut-être commencer par les élus. Donc, on a invité André Géry, qui a été maire de Rive-de-Gier de 1977 à 1989, maire communiste. On a invité Paul Chauma, qui a été le premier adjoint de la municipalité Sandols de 77 à 83. Et on a invité Bernard Jaillol, qui, lui, était socialiste, mais maire d'une municipalité d'Union de la Gauche à Riorges.
Oui, on fait des rencontres sur la Loire, donc voilà, on sera content de pouvoir quitter un petit peu le bassin stéphanois occasion.
Voilà. Et puis, donc, trois élus importants, plus un quatrième témoin qui sera Alain Ballambois, qui a été architecte et qui a été lié à la politique urbaine de Saint-Étienne de 77 à 83, à l'époque de la municipalité Sangdols. Bien sûr, il a travaillé avant et il a travaillé après, mais on va surtout s'interroger sur les politiques municipales de cette période de l'Union de la Gauche, grosso modo, c'est-à-dire à partir de 1977.
Avec donc une table ronde animée par notre collègue Georges Guay, géographe, et ancien professeur à l'Université de Saint-Étienne, professeur émérite.
Et bon connaisseur, notamment de
Rive-de-Gier
et de tout le bassin.
Et des politiques urbaines, tout simplement.
Voilà, et des politiques urbaines. L'idée, c'est effectivement, ça va être beaucoup centré sur les politiques urbaines, mais aussi sur le fonctionnement peut-être du conseil municipal dans une municipalité communiste ou d'une municipalité d'Union de la Gauche.
Donc un débat qui s'annonce très intéressant, d'autant plus que, comme dans chaque demi-journée, on laissera le temps aussi pour des questions de la salle. Donc oui. Voilà, que les gens ne sont pas simplement des spectateurs de ces débats, de nos présentations. Voilà, ça sera quelque chose où on veut pouvoir impliquer le public avec évidemment un temps limité, mais on a envie quand même aussi que les spectateurs puissent devenir un petit peu acteurs de nos rencontres. Et donc l'après-midi, on fait également une table ronde sur la thématique des engagements culturels, qui cette fois sera modérée par Michel Rottenberg, professeur de sociologie à l'Université de Saint-Étienne, et donc avec plusieurs, au moins deux
voilà,
participants.
Pour l'instant, on a donc deux participants sûrs. Donc on a d'abord Jo Martensio, qui a été professeur de lettres et qui était responsable de la culture à la Fédération PCF de la Loire, en gros, des années 70 aux années 90. Donc, quelqu'un qui connaît très bien tout ce qui s'est passé à Saint-Étienne dans la période Sangdols, avant Sangdols et après Sangdols. Le deuxième, c'est Noël Thiébault, ancien maire d'Unieu, qui a été surtout un des acteurs importants de l'Université Nouvelle au début des années 70 et qui va nous parler aussi de ce qu'a pu être la politique culturelle dans une petite ville dirigée par le Parti communiste, à savoir Hugneux. Et on attend encore un intervenant sur les rencontres cinématographiques, mais on a bon espoir de pouvoir terminer cette table ronde avec trois personnes.
C'est tout l'enjeu, toute la difficulté de faire parler sur des périodes un petit peu anciennes. Hein. Ça reste un travail table ronde, ce sont des gens, voilà, donc c'est toujours un peu difficile d'organiser les choses. Et dernière chose importante, on a fait le programme du jeudi 23, du vendredi 24, mais nous invitons également nos auditeurs le mercredi 22 à venir assister à des projections que nous organisons à la Cinémathèque de Saint-Étienne. Jean-Michel, tu peux nous en dire un petit peu plus?
Alors donc, l'idée c'était de travailler comme on le fait chaque fois à l'occasion des rencontres avec la Cinémathèque. Et puis en même temps, quelque part, de combler, alors d'abord de montrer l'importance que le Parti communiste a toujours attachée à l'image et au cinéma, à tel point qu'il a créé donc une institution qui s'appelle Cinéarchive, qui a conservé beaucoup de documents cinématographiques. Nous en projetterons un qui est une espèce, un petit film muet qui dure 13 minutes sur les débuts du Parti communiste. On voit beaucoup, notamment, intervenir Marcel Cachin et Paul Vaillant-Couturier. On ne les entend pas, mais on les voit.
Et les congrès à l'époque, il y a un côté assez particulier. C'est une esthétique qui est très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui dans la vie politique.
Tout à fait. Et puis le deuxième film va nous permettre de combler une des lacunes. Alors, je voudrais quand même insister parce que la remarque nous a déjà été faite par plusieurs personnes en disant « Vous avez oublié ci, vous avez oublié ça, vous avez oublié la résistance, vous avez oublié la guerre froide. » Non, on a été obligé de faire des choix en fonction de notre problématique que Antoine a rappelé dès le début.
Deux journées, c'est déjà très long.
Deux journées, c'est long. Et notre problématique, c'était de partir de l'idéal de la Révolution jusqu'à la réalité, c'est-à-dire l'expérience et la pratique démocratique dans une république comme la France.
Pour revenir justement à toutes les conséquences du congrès de Tours.
Donc la grande lacune, évidemment, c'est le Front populaire. C'est le Front populaire. Eh bien, on va y remédier en publiant un très célèbre film de Jean Renoir.
En diffusant,
qui s'appelle « La vie est à nous ». Voilà. On a fait à peu près le tour des programmes.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Hein, l'entrée est libre.
C'est gratuite.
Évidemment.
On rappelle les dates, Antoine et Jean-Michel, donc les 23 et 24 janvier 2020 prochain, ces 6e rencontres d'histoire ouvrière qui se dérouleront donc, on rappelle également le lieu.
Aux archives départementales de la Loire, dans la salle de conférence. On vous indiquera une fois que vous y serez, ne vous inquiétez pas.
Oui, un partenaire, bien sûr, hein, aussi de ces rencontres, comme le sont les archives municipales.
Différents partenaires. La ville de Saint-Étienne. On a également un partenariat avec le CEDMO 42, avec l'association Jaurès dans la Loire, et bien évidemment avec Radio Dio depuis tellement d'années, et donc le département de la Loire qui nous accueille pour ces rencontres.
Transition toute faite, juste pour faire aussi lien avec des émissions passées ici sur cette entame de saison 2019-2020, actualité en exposition du côté des archives municipales. Justement, on rappelle En Chantier, Saint-Roch en mutation, patrimoine en question. Cela a fait l'objet d'une émission spéciale autour de ce quartier le 17 octobre dernier. C'est une exposition qui est actuellement visible, donc intitulée En Chantier, Saint-Roch en mutation, patrimoine en question, je le redis. C'est une expo qui est visible aux archives municipales jusqu'au mois de juin prochain, le 28 juin prochain. D'autres émissions qui ont eu lieu aussi sur cette antenne dans le cadre de cette émission Grémoz consacrée à la mine et notamment aux catastrophes minières. Deux émissions réalisées ce début de saison. On rappelle également jusqu'au 25 mai prochain cette nouvelle exposition du Pucourio qui traite de ce sujet sensible, les catastrophes minières. Exposition donc temporaire, catastrophes minières. une expo et des animations prévues dans ce cadre-là. On renvoie bien sûr nos auditeurs et auditrices à votre site dédié, gremos.loutre.net, où vous pouvez retrouver également un ensemble d'informations et notamment peut-être plus précises ou complémentaires sur ces sixièmes rencontres d'histoire ouvrière. On termine sur ce. Très belle fin d'année à vous.
Merci.
On se retrouve le 16 janvier prochain, si je ne me trompe, pour la prochaine émission Gremos. Toujours rendez-vous le troisième jeudi du mois, 12h, 19h en rediffusion, ainsi que le lendemain matinale 8h. Merci à vous, à très bientôt, ciao, bye.